chers auditeurs et auditrices de Radio Maria France, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse du 28 septembre 2020. Voici les titres de l'actualité. Va-t-on et voulons-nous avoir un futur déshumanisé? Est-ce qu'une puce dans le cerveau peut constituer un réel progrès? Joël Hauteberg du magazine L'Homme Nouveau nous fait un décryptage très intéressant donc, à propos de cette fameuse puce et de cette volonté humaniste qui, au nom du palliement des dysfonctionnements neurologiques, cache un projet déshumanisant de l'homme du futur. Je vous en dirai plus dans quelques instants. Lourdes est venue aux malades cet été. En effet, 60 jeunes ont vécu une aventure extraordinaire en se rendant tout simplement chez les malades, puisque l'épidémie du Covid-19 a empêché les pèlerinages habituels à Lourdes. Toujours pareil, c'est issu de L'Homme Nouveau numéro 1719. Culture chrétienne, nous irons du côté du cinéma avec le film Unplanned, donc qui traite la question délicate et douloureuse de l'avortement, tiré du récit autobiographique de Abby Johnson. Il s'agit d'une production de Solideo Gloria, je vous en dirai plus dans quelques instants. Qui était Maria Teresa Carloni, donc une mystique italienne bouleversée par la persécution des chrétiens bloquée derrière le rideau de fer, qui va ensuite les rencontrer dans les prisons et voire même dans les goulags grâce à des bilocations. Je vous dirai donc ce qu'a écrit son propre auteur, Didier Rance, donc un livre paru aux éditions Salvator. Nous commençons avec la technologie. Est-ce que l'intelligence de l'homme peut se réduire à une puce? Jusqu'où ira-t-on dans ce qu'on appelle le progrès? Voici l'article de Joël Hauteberg paru dans L'Homme Nouveau de ce mois-ci. Dans les derniers jours du mois d'août, Elon Musk, milliardaire américain d'origine sud-africaine, a annoncé le lancement de son nouveau projet de connexion du cerveau humain avec l'intelligence artificielle IA. Il s'agirait d'implanter dans le cerveau une petite puce utilisant la technologie Bluetooth et rechargeable comme un vulgaire téléphone portable, procédé déjà testé sur des cochons. Patron de la récente et déjà célèbre marque automobile Tesla ainsi que de la société SpaceX, travaillant actuellement sur un projet de montre intelligente, Elon Musk a présenté son projet dans le cadre d'une autre de ses entreprises basée en Californie, la start-up Neuralink, spécialisée dans les neurotechnologies. Comme toute opération de communication bien préparée, cette annonce diffuse un message multidirectionnel visant différents publics avec des objectifs précis. La renommée de l'initiateur, émetteur du discours, l'une des icônes californiennes des nouvelles élites richissimes et branchées, spécialisées dans les nouvelles technologies, suffit à attirer la curiosité de tous alimentée par les médias. Le contenu et la mise en scène de l'annonce ciblent tout d'abord les scientifiques avant-gardistes de toutes les spécialités conviées à s'engager dans la société. L'objectif affiché est de passer de 100 à 10 000 employés pour travailler sur ce projet, qui bénéficie déjà de fonds suffisants. Le coup de com' vise aussi le grand public dont il faut capter l'attention bienveillante grâce au progrès supposé que la réalisation du projet permettrait d'atteindre dans notre société sécularisée du bien-être. Pour que l'objectif soit atteint, la communication utilise tous les atouts que l'on peut tirer des espérances millénaristes contemporaines qui dominent l'esprit du temps. Car s'il s'agit en apparence, dans un premier temps, de soigner les lésions du cerveau, les intentions transhumanistes sont également affirmées. Selon Elon Musk, nous sommes déjà des cyborgs par notre connexion quotidienne à de multiples machines. Les progrès scientifiques doivent permettre, par la symbiose de l'homme avec l'intelligence artificielle, de soigner les dépressions, de télécharger la mémoire pour sauvegarder les souvenirs et les transplanter dans un autre corps robotisé et même de percer les secrets de la conscience. Le monde scientifique sérieux a d'emblée affiché son scepticisme à l'égard de la faisabilité d'un tel projet, assimilé par certains à de la science-fiction. Pour Grégoire Courtine, neuroscientifique de renom, la promesse d'une guérison au moyen d'une puce est aujourd'hui prématurée. Catherine Vidal, neurobiologiste, qualifie de fantasque les annonces de Elon Musk. Il revient sur l'idée de télécharger la pensée dans des microprocesseurs pour fusionner intelligence humaine et intelligence artificielle. C'est un leitmotiv chez lui. Cette vision qui est présentée comme plausible et devrait d'après lui se réaliser dans un futur proche revient à laisser croire que la pensée peut exister en dehors du cerveau et en dehors du corps. Or, le projet de séparer la conscience du corps relève soit d'une conception religieuse de l'âme, soit d'un scénario de science-fiction. Mais cela ne correspond en rien à une démarche scientifique. Dans la logique progressiste, il faut non seulement faire tout ce qu'il est possible de faire, mais il convient également, dans une démarche de foi, de tenter de rendre possible ce qui est irréalisable, dans la perspective de parvenir enfin à la sortie de la condition humaine. C'est-à-dire afin d'être délivré du carcan imposé par les limites de notre nature. La communication joue sur les promesses du futur, dont on annonce au son des tambours et des trompettes qu'il sera réellement sans limite. Le projet navigue ainsi avec le courant transhumaniste de l'attente de la victoire définitive sur la nature et la mort, auxquelles sont particulièrement sensibles ceux qui vivent dans la plus grande aisance financière. De tels projets présupposent une anthropologie radicalement matérialiste, l'être humain étant réduit à un amas de cellules dont l'usure trop rapide et les multiples dysfonctionnements justifient le recours à des technologies qui atteindront, nous promettons, des résultats plus sûrs et plus durables. La conscience humaine est également réduite à de la pure matière. La machinerie humaine, obsolète, laissera la place à un être hybride dirigé par l'IA, intelligence artificielle. Le choix par Elon Musk du prénom de son dernier fils, XEA12, est une parfaite illustration de sa vision d'un futur totalement déshumanisé. Quelle chance pour cet enfant! Même un acronyme aurait été plus attendrissant. Une telle annonce, répandue dans les médias, entretient dans le public le mythe progressiste de la faisabilité prochaine du projet transhumaniste de dépassement de la nature humaine. Les mises en garde des scientifiques ne pèsent pas bien lourd dans l'esprit de beaucoup, à côté de l'espérance humaine d'un bonheur humain sans fin, sécularisé, et de la foi dans la science. On devrait pourtant se demander si placer le cerveau humain à la merci d'une puce et d'un chargeur est un réel progrès et un gain pour la liberté. Elon Musk sera-t-il le premier cobaye humain à tester l'implant quand celui-ci sera fin prêt ? Voilà, chers auditeurs, il s'agit quand même d'un article assez complexe que vous pourrez lire à tête reposée dans le dernier Homme Nouveau paru ce mois-ci, donc l'article de Joël Euteberg, Bientôt une puce dans le cerveau. Nous allons maintenant du côté de Lourdes. Pour ne pas ajouter une souffrance supplémentaire aux malades qui auraient trouvé à Lourdes paix et réconfort, une soixantaine de jeunes hospitaliers ont fait un pèlerinage peu ordinaire. Voici la présentation par l'un d'entre eux. L'article a été fait par Louis-Henri d'Espaigne, paru également dans l'Homme Nouveau de ce mois-ci. Si les malades ne peuvent venir à Lourdes cette année, c'est Lourdes qui viendra aux malades. Cette phrase étonnante de détermination fut le leitmotiv d'un groupe de 60 jeunes hospitaliers pour vivre un pèlerinage national extraordinaire. Pendant le confinement, ils avaient organisé une veille téléphonique pour épauler leurs malades durant ces semaines de solitude. Tous étaient désespérés de ne pouvoir venir à Lourdes cette année. Qu'à cela ne tienne, Lourdes viendrait à eux. Répartis en 11 routes différentes, avec 5 à 6 personnes malades à visiter, ces 60 hospitaliers ont rallié Paris à Lourdes en voiture et visité les personnes malades sur leur chemin. Paris, Mâcon, Lyon, Bordeaux, Saint-Lô, Toulouse. Plus de 11 000 km parcourus en tout pour une expérience dont ils se souviendront pendant longtemps. Cette année, l'appel de Lourdes était particulier, mais quelle expérience! Si distance et masque étaient de rigueur, les moments vécus n'en furent pas moins beaux. En témoigne la mère d'une malade visitée qui a invité les 5 hospitaliers à dîner, puis dormir, ou bien Jean-Luc, aveugle et en fauteuil, qui avait demandé à son infirmière qu'il soit bien rasé et habillé car il recevait des amis. En comparaison des 5 jours habituels passés ensemble à Lourdes, chaque été, les quelques heures de visite pouvaient sembler bien dérisoires. Au contraire, elles ont permis aux hospitaliers d'être accueillis à leur tour, ce qui aide un peu plus chacun à regarder les malades comme des personnes, à l'instar de Notre-Dame avec la petite Bernadette. Vincent, par exemple, a imposé au groupe qui venait le voir de s'asseoir à table pour qu'il puisse servir à chacun un verre de jus d'orange, malgré son bras handicapé. Il leur a dit « Ne bougez pas, c'est moi qui vous invite ». Belle expérience de rencontre aussi des personnels soignants, souvent si généreux et à l'écoute des résidents et touchés par cette initiative. « C'est fou, je ne l'avais jamais vu parler autant », confie une soignante à propos d'un malade visité à Paris. À Lyon, une assistante avait été particulièrement surprise du ton si jovial d'un malade à qui elle annonçait l'arrivée des amis de Lourdes. La simplicité et la joie de Lourdes ont été recréées le temps d'une visite. Pourtant, le début de l'aventure avait été compliqué. Si très vite une bonne trentaine de jeunes hospitaliers s'étaient portés volontaires, il fallait trouver voiture, lieu d'hébergement et trajet pour ces équipes. Visiter 60 personnes malades réparties sur tout le territoire en s'assurant que chaque malade visité connaît au moins un hospitalier du groupe est un vrai problème d'optimisation mathématique à plusieurs variables. Heureusement que Notre-Dame, au-delà de ses difficultés, jette sur nous son regard aimant qui défait les nœuds. Les trajets sont trop onéreux ? Une cagnotte permet rapidement de collecter de quoi baisser ses tarifs. Petit à petit, avant que l'équipe ne s'étoffe jusqu'à 60 personnes, des voitures sont proposées, des lieux d'hébergement trouvés. Et voici que le 11 août au petit matin, 60 joyeux pèlerins se retrouvent pour assister à la messe d'envoi et confier ses futures rencontres. Qu'il s'agisse de discussions, de cafés, de pauses cigarettes, de jeux de cartes ou de prières, les rencontres ont toutes été différentes, mais intenses et belles. Après ces 3 jours et ces 1000 km parcourus, les 11 équipes se sont retrouvées à Lourdes pour fêter l'Assomption et servir le sanctuaire avec l'organisation du pèlerinage national. De sa grotte, Marie les attendait pour recueillir toutes les intentions de prière glanées en chemin. Certes, la grotte était bien là, mais les personnes malades, l'âme du lieu manquait à l'appel. Une absence qui manifestait à quel point ce sont en réalité les personnes malades que l'on vient servir qui nous reçoivent à Lourdes. Malgré tout, l'accueil des pèlerins restait assez important à l'approche de la fête de l'Assomption. Même si on ne pouvait toucher la grotte, ni se baigner aux piscines, les hospitaliers gardaient un service d'accueil au sanctuaire. L'occasion de goûter à nouveau la prière du chapelet à la grotte ou bien le geste de l'eau, qui permet de vivre l'expérience de Bernadette en se lavant le visage, puis en buvant à l'eau de Lourdes. Le pèlerinage national avait également mis en place un système de parrainage par lequel chaque hospitalier communiquait avec un malade en particulier chaque jour pour lui faire vivre à distance un peu de Lourdes. Si l'expérience estivale vécue habituellement est source de beaucoup de joie, cette année, les rencontres individuelles ont dévoilé la profondeur immense d'une charité très simple. Ce tour de France des personnes malades semblait semé d'embûches, mais confié au cœur de Marie, il s'est révélé très riche. Chacun est reparti avec la certitude que ses initiatives pouvaient répandre la joie du Christ, même en ces temps moroses de crise sanitaire. Ça tombe bien, nous avons l'année pour cela. Malgré la distanciation sociale, cette initiative a rapproché les cœurs, preuve que le virus ne peut pas être un frein à la charité. Au contraire, c'est en ces moments que la fougue chrétienne peut envahir le monde et devenir missionnaire. Vous pourrez retrouver l'article donc que je viens de vous lire de Louis-Henri d'Espaigne, paru dans L'Homme Nouveau de ce mois-ci. Culture chrétienne. Maintenant, nous allons aller du côté du cinéma et sur un sujet qui malheureusement reste toujours douloureux et délicat, celui de l'avortement. Donc le film Unplanned, tiré du récit autobiographique de Abby Johnson, donc une production de Solideo Gloria, donc, dont les projections commenceront dès le 1er octobre, mais des projections en ligne et dans des enceintes privées. Voici tout d'abord le synopsis du film. La seule chose qui importe pour Abby Johnson, c'est d'aider les femmes. Touchée par la souffrance de beaucoup d'entre elles, elle est convaincue des bienfaits du droit à l'avortement. Elle s'engage comme bénévole au planning familial américain, puis devient l'une de ses plus jeunes et brillantes directrices de clinique. Jusqu'au jour où ce qu'elle voit va tout bouleverser. Ce film, donc basé sur le récit autobiographique donc, de Abby Johnson, dont le livre a été publié aux États-Unis et traduit en français aux éditions du Livre Ouvert, il s'agit donc de cette jeune étudiante qui s'engage comme bénévole dans le planning familial américain pour aider les femmes en détresse et défendre leurs droits. Quelques années plus tard, l'auteur devient l'une des plus jeunes directrices du clinique du planning familial. Grâce à son ardeur, son professionnalisme et sa détermination, elle est nommée employée de l'année et devient l'une des porte-paroles du mouvement. Durant cette période, elle accompagne de très nombreuses femmes et près de 22 000 avortements sont pratiqués dans la clinique où elle travaille. Mais différents événements la conduisent à un revirement brutal jusqu'à rejoindre ses anciens opposants et à devenir l'une des militantes pro-life les plus connues aux États-Unis. Comment expliquer un tel revirement ? L'histoire d'Abby Johnson montre les dilemmes éthiques auxquels elle a dû faire face, ses conflits avec les organisations pro-vie et les tensions que son travail faisait peser sur sa vie de famille. Donc le film, bien évidemment, n'est pas là pour rajouter de l'huile sur le feu, de permettre tout simplement un échange sur ce sujet délicat et permettre un dialogue à travers ce film. Voici un petit peu comment vont s'organiser les modes de diffusion. Nous souhaitons privilégier autant que possible des projections suivies éventuellement d'échanges avec une ou plusieurs personnes qui ont une solide expérience d'accompagnement sur la question de l'avortement, afin que les spectateurs puissent poser leurs questions et exprimer leurs réactions. Ces projections pourront être organisées par des associations locales, dans les lycées, les églises, les paroisses, mouvements de jeunes, avec, si c'est possible, l'intervention à l'issue d'une personne ressource capable d'accueillir les réactions des personnes, d'écouter et de permettre la discussion. Pour ceux que ça intéresse, afin d'organiser une projection, il vous suffit de contacter Sage Distribution à l'adresse suivante communication@sageprod.com. Je vous informe également que Nicolas Bauer, juriste au European Center for Law and Justice, une association qui aide les enfants à naître, sera notre invité le 6 octobre à 14h35. Donc, il vous parlera de son expérience en tant que spectateur et nous donnera également les dernières nouvelles juridiques pour défendre justement l'enfant à naître. Donc notez bien le 6 octobre à 14h35 sur Radio Maria France. Maintenant, je vais vous parler de l'italienne Maria Teresa Carloni, une convertie à 32 ans qui a consacré ses souffrances et ses dons mystiques à l'aide des chrétiens en détresse derrière le rideau de fer. Voici l'article de Didier Rance, diacre et écrivain, paru dans le magazine Prier de ce mois-ci. Tout commence peu après sa conversion et son offrande d'elle-même au Christ en 1951, quand une voix intérieure s'impose peu à peu malgré elle. Maria Teresa Carloni, 32 ans, soigne alors des enfants malades dans un sanatorium. Cette voix lui demande si elle veut bien s'offrir pour le salut de beaucoup. Son confesseur, d'abord prudent, y discerne celle du Christ et la jeune femme accepte. Le vendredi saint qui suit, elle revit la passion de Jésus. Expérience qu'elle fera désormais 3 heures durant tous les vendredis pendant 30 ans, où qu'elle soit à travers le monde. Elle reçoit les stigmates, tandis que d'incessantes souffrances physiques, des attaques démoniaques et de dégoûts de vivre s'abattent sur elle et détruisent sa santé. Mais un grand confesseur de la foi, le cardinal Tomáček de Prague, la soutient en lui écrivant « Qui travaille pour le règne de Dieu fait beaucoup. Qui prie pour le règne de Dieu fait mieux encore. Qui souffre pour le règne de Dieu fait tout. Voici votre mission. » En 1953, Maria Teresa offre en particulier sa vie et ses souffrances pour les croyants persécutés. Un an plus tard, nouvelle étape. Non plus seulement pour eux, mais aussi avec eux. Elle va bientôt partir à la rencontre des chefs d'église et des croyants enfermés dans les prisons et les goulags pour leur foi, afin de les réconforter et de faire connaître leurs souffrances et leurs besoins. Ce projet fou, elle le mène grâce à des bilocations. Elle revenait parfois avec des traces sur son corps. La première de ses bilocations la transporte en Pologne auprès du cardinal Wyszyński, qui est à ce moment-là emprisonné. Elle se rend aussi physiquement derrière le rideau de fer pour y avoir des rencontres secrètes. Elle réussit à convaincre le pape Pie XII, puis ses successeurs, de la vérité des informations qu'elle rapporte de ses voyages. Le cardinal Wyszyński et d'autres responsables des églises persécutées les corroboreront et seront d'ailleurs de grands amis de Maria Teresa. Ces informations permettent au pape de mieux défendre les croyants persécutés. Poète et dramaturge avant sa conversion, Maria Teresa met au service de sa mission ses dons d'écrivaine. Elle écrit les vies des confesseurs de la foi qu'elle a bien connus, ainsi que des ouvrages spirituels, tels ce chemin de croix que Pie XII qualifie de « gumkana biblique », pour en souligner la richesse. La méditation sur le Saint-Sacrement est au cœur de sa réflexion, comme de sa vie. Ses pensées sur l'Eucharistie montre comment toutes nos dimensions personnelles et communautaires peuvent être transformées par la communion sacramentelle, jusqu'au grand passage de sa mort, rêve d'amour devenu réalité pour cette âme eucharistique. Pour ceux qui seraient touchés et qui veulent en connaître un peu plus sur Maria Teresa Carloni, Didier Rance donc a écrit un livre paru aux éditions Salvator qui s'intitule « Maria Teresa Carloni, mystique au service des chrétiens persécutés ». Je vous retrouve maintenant pour la conclusion de cette revue de presse. Pour conclure cette revue de presse du 28 septembre 2020, je vous redonne les titres de l'actualité. J'ai commencé par vous parler de la puce dans le cerveau. Une information qui fait frémir, mais quoi qu'il en soit, nous devons rester dans la confiance et dans l'espérance et bien nous tenir informés. Je vous ai lu l'article de Joël Euteberg, paru dans L'Homme Nouveau, numéro 1719, donc de ce mois-ci. Lourdes, cette année, est venue aux malades et non les malades à Lourdes. 60 jeunes ont vécu une aventure extraordinaire en visitant tout simplement les hospitaliers, enfin du moins les brancardiers, les personnes malades qui avaient l'habitude de se rendre à la grotte et qui cette fois-ci ont dû seulement être visitées. Mais la Vierge Marie a plus d'un tour dans son sac. Culture chrétienne. Unplanned, tiré du récit autobiographique de Abby Johnson, donc un film qui parle de l'avortement et qui sera en projection en ligne et dans les enceintes privées dès le 1er octobre. Notez bien que Nicolas Bauer, juriste pour European Center for Law and Justice, sera notre invité le 6 octobre à 14h35 pour vous en dire davantage. Maria Teresa Carloni, mystique au service des chrétiens persécutés, donc un livre de Didier Rance, paru aux éditions Salvatore. Donc une mystique qui a connu la bilocation pour réconforter et accompagner les croyants enfermés dans les prisons et les goulags. Je pense que nous pouvons nous confier à son intercession. Très bonne après-midi à l'écoute de Radio Maria et je vous retrouve avec joie lundi prochain.